Décryptage. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Que peut faire Joe Biden, le futur président américain, dans le dossier israélo-palestinien? Voilà la question que l'on pose ce soir dans Décryptage. Et cette question s'appuie sur un événement qui se déroule aujourd'hui. C'est la réunion du conseil de gouvernance de l'UNRWA. Alors l'UNRWA, c'est l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, une agence dont l'administration Trump a coupé le financement alors que les États-Unis étaient le premier contributeur. C'est intéressant parce que c'est symbolique de la politique du président américain sortant, une politique ouvertement pro-israélienne. Aujourd'hui, les pourparlers de paix entre Israéliens et Palestiniens sont à l'arrêt. Joe Biden pourra-t-il marquer un virage radical? Et pourquoi ces discussions ont besoin de l'engagement des États-Unis finalement pour être relancées? Soyez les bienvenus. Et pour répondre à ces questions, notre invitée à nos côtés en studio, Amélie Ferré, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse à l'IRSEM, qui est l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, chercheuse également au CERI Sciences Po. Pour commencer, je voudrais revenir sur la récente visite de Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain en Israël. C'était la semaine dernière. Une visite lourde de symboles. Mike Pompeo s'est rendu dans une colonie israélienne en Cisjordanie occupée. C'était une première. Et il s'est rendu également sur le plateau du Golan, dont l'annexion par Israël, on le rappelle, n'est pas reconnu par la communauté internationale. Des symboles et des actes, hein, finalement, à travers ce déplacement, Amélie Ferré, est-ce que Mike Pompeo a un peu plus condamné le processus de paix israélo-palestinien?
Alors ça dépend évidemment de la manière dont on voit le processus de paix israélo-palestinien, parce que pour les partisans de Trump et pour les partisans de Netanyahou, justement, ce sont des politiques qui ont avancé la paix, mais en tout cas il a définitivement enterré l'idée d'une communauté internationale unie et surtout le respect du droit international dans ces questions-là. Et il faut quand même rappeler que cette visite, elle se situe dans la lignée de l'annonce d'une possible annexion de la Cisjordanie, en tout cas d'une partie de la Cisjordanie qui avait été faite par Netanyahou cet été, une annonce qui était en fait dans la continuité d'une promesse électorale qu'il avait tenue, puisqu'il y a eu quand même 3 élections depuis avril 2019 en Israël. Et toute la question aujourd'hui qui agite la presse israélienne et palestinienne, c'est est-ce que dans cette période de transition de la présidence Trump à celle de Joe Biden, on va avoir finalement une avancée dans la perspective d'une possible annexion israélienne ou pas. Et cette visite de Mike Pompeo, elle donne un indice en fait et sur la possible annexion justement.
Si on doit faire un bilan de l'action de l'administration Trump sur dans le dossier israélo-palestinien, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été défait?
Alors, beaucoup a été fait et beaucoup a été défait. En fait, c'est le processus de paix avec une idée d'une solution à 2 États, il était quand même au point mort depuis un certain nombre d'années. D'une part, parce que l'Israël de Netanyahou ne bougeait pas sur ce plan-là, et aussi parce que l'autorité palestinienne, elle est gouvernée par Mahmoud Abbas. Il n'y a pas eu d'élection depuis 2005 et tout est aussi figé du côté palestinien. Et l'administration Trump, elle a vraiment complètement rebattu les cartes en adoptant en fait les lignes d'Israël et de l'Israël vraiment de droite de Bibi. Et du coup, donc la reconnaissance de l'annexion du Golan, la reconnaissance de Jérusalem comme une capitale éternelle et indivisible d'Israël, le fait que justement les Palestiniens, enfin d'arrêter de financer l'UNRWA, tout ça sont des étapes en fait pour complètement isoler les Palestiniens sur la scène internationale et pour permettre en fait l'enterrement définitif de la solution à 2 États.
Mais pourquoi justement cet objectif côté Trump d'enterrer une solution à 2 États? Pourquoi ce parti pris volontairement pro-israélien au-delà de l'amitié qui a été mise en exergue finalement entre les deux dirigeants, entre Donald Trump et Bibi, Benjamin Netanyahou.
Voilà, en fait il y a plusieurs points. Donc il y a effectivement la relation interpersonnelle forte entre les deux, avec aussi pas seulement une relation interpersonnelle, la même conception en fait de la politique qui est basée sur le rapport de force, un exercice vraiment solitaire du pouvoir et des valeurs illibérales avec une hystérisation du débat public. Mais derrière ça, il y a aussi l'alignement des intérêts entre Israël et les États-Unis, notamment sur le dossier iranien. Et d'ailleurs, un des grands héritages quand même de Trump dans la région, c'est d'avoir réaligné toute la région dans une alliance avec Israël en ordre de bataille contre l'Iran. Donc il y a ça, et puis il y a aussi la base évangéliste.
Avec notamment le retrait, évidemment, il faut signaler le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien.
Voilà, c'est ça. En fait, Trump a s'est aligné sur la position de Netanyahou en pensant que la seule manière de contenir les ambitions nucléaires de l'Iran, c'était l'option militaire. Et donc, cette option militaire, elle passait par le retrait de l'accord, par montrer les muscles, par exemple, en assassinant Soleimani sur renseignement israélien. Faire une normalisation d'Israël avec les puissances du Golfe et le Soudan pour créer un axe, en fait, Israël contre un autre axe qui serait Iran-Turquie de l'autre côté. Et il y a la base évangéliste juste de Trump qui est quand même importante.
Oui, donc créer effectivement une alliance contre l'Iran plutôt que renforcer, relancer le processus de paix israélo-palestinien. Donc côté israélien, évidemment, les quatre années, et ça va dans le sens de ce que vous dites, Amélie Ferré, les quatre années du mandat de Donald Trump ont été vécues de manière euphorique. On va écouter ce que disait le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, suite à l'annonce du plan de paix américain pour le Proche-Orient. C'est en tout cas comme ça qu'il était présenté. C'était en début d'année, on écoute Benjamin Netanyahou.
This is a historic day, and it recalls another historic day.
C'est un jour historique, et cela rappelle un autre jour historique. Nous nous souvenons du 14 mai 1948, car ce jour-là, le président Truman est devenu le premier dirigeant au monde à reconnaître l'existence de l'État d'Israël. Monsieur le Président, je crois que dans les décennies à venir, et peut-être au cours des siècles, on se souviendra aussi du 28 janvier 2020, car aujourd'hui, vous êtes devenu le premier dirigeant au monde à reconnaître la souveraineté israélienne sur les zones de Judée et Samarie, qui sont vitales à notre sécurité et centrales pour notre héritage. Et en ce jour, vous avez aussi ébauché un futur brillant pour les Israéliens, les Palestiniens et la région, en présentant un chemin réaliste vers une paix durable.
By itself.
Amélie Ferré, Donald Trump a ébauché le futur des Israéliens et des Palestiniens, affirme Benjamin Netanyahou. Est-ce que selon vous, c'est vrai? Est-ce que le futur des Israéliens et des Palestiniens va rester longtemps marqué par le mandat de Donald Trump? Ça va nous amener à évoquer évidemment le futur mandat de Joe Biden.
Oui, c'est sûr qu'il va laisser une empreinte sur la région qui est très importante, déjà parce que il a finalement finalisé cette réorganisation en ordre de bataille là contre l'Iran, mais aussi parce que pour Joe Biden, ça va être très difficile de revenir sur les avancées qu'a obtenu Netanyahou de la part de Trump, et par exemple sur la question de Jérusalem. On imagine vraiment mal une administration Biden revenir et redéplacer l'ambassade américaine vers Tel Aviv. Et pour les Palestiniens, c'est un point de cristallisation très important parce que Jérusalem, abrite Al-Quds, donc la mosquée Al-Aqsa, qui est le troisième lieu saint de l'islam. Et pour les Palestiniens, Jérusalem est la capitale de l'État palestinien. Donc, dans ce contexte-là, on ne voit pas comment deux États pourraient être possibles, même si c'est la volonté déclarée de Joe Biden de redynamiser cette solution.
Et c'était effectivement sans doute l'acte le plus fort du mandat de Donald Trump, de faire déménager l'ambassade américaine en Israël, de Tel Aviv à Jérusalem. Alors, avant d'évoquer ce que justement Joe Biden peut faire, est-ce qu'on peut tenter d'évaluer où on est aujourd'hui le processus de paix israélo-palestinien? Camper le décor. On peut peut-être plutôt parler de dialogue parce que le processus de paix est complètement à l'arrêt.
Il est complètement à l'arrêt. Donc, Donald Trump avait annoncé avec moult tremolo l'idée d'un deal du siècle, the deal of the century.
Donc, c'est le fameux plan de paix pour le prochain qu'on évoquait, que Benjamin Netanyahou a évoqué dans le son qu'on vient d'entendre.
Voilà, exactement, et qui n'est jamais arrivé. Donc il a tenté par un tour de passe-passe justement de substituer les Palestiniens aux Arabes du Golfe en se disant que voilà, ça allait quand même passer. Mais aujourd'hui, le plan de paix, il est complètement à l'arrêt. Il y a eu une reprise quand même du dialogue parce que les Palestiniens ont récupéré le versement en fait des impôts qu'il aurait versé par Israël, qu'ils avaient arrêté en mai pour protester contre ces annonces d'une annexion. Donc là, il y a quand même une reprise qui est faite. Les Palestiniens ont aussi annoncé la volonté de tenir des élections, donc qui pourraient bouger les lignes, faire bouger les lignes. Et surtout, le grand point qui pourrait justement faire évoluer la situation, c'est la question de l'avenir politique de Benjamin Netanyahou, qui est mal en point.
Oui, Et en plus, il doit justement céder le pouvoir à Benny Gantz en 2021, selon le partage du pouvoir qui est sorti des élections israéliennes. Ça peut changer la donne, effectivement, parce qu'il y avait cette alliance Netanyahu-Trump. Si ça devient Gantz-Biden, ça peut ne plus être la même donne.
Exactement, parce qu'en fait, Netanyahu est dans une coalition pour être au pouvoir avec les religieux israéliens qui, eux, sont dans les colonies israéliennes et qui constituent en fait la base des colons. Et donc qui, eux, refusent absolument de faire une paix avec les Palestiniens puisqu'ils veulent établir une souveraineté juive dans ce qu'ils appellent la Judée-Samarie, c'est-à-dire la Cisjordanie. Et donc, dans l'optique où Gantz arriverait au pouvoir, il ne serait plus complètement tenu par ces partis ultra-religieux et donc pourrait éventuellement faire bouger les lignes.
Alors, on a évoqué justement, côté israélien, la réaction aux 4 années de mandat de Donald Trump. On va à présent entendre la position palestinienne à l'égard des États-Unis. C'est un extrait sonore du président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui réagissait au plan de paix américain pour le Proche-Orient que vous évoquiez, Amélie Ferré. Mahmoud Abbas qui pointe un recul historique de l'engagement des États-Unis en faveur de la paix entre Israéliens et Palestiniens.
Alors qu'Israël a reconnu l'Organisation de libération de la Palestine comme étant le représentant légitime et unique du peuple palestinien, les États-Unis contestent ce fait. Le Congrès américain nous considère comme des terroristes. Alors qu'il existe entre Israël et nous-mêmes des accords de coopération en matière de sécurité, Trump nous considère comme des terroristes. Or, les accords d'Oslo, entérinés par Yasser Arafat et Yitzhak Rabin, reconnaissent l'OLP. Par conséquent, je voudrais savoir ce que les Américains auront inventé, en fin de compte.
Amélie Ferré, que peuvent espérer les Palestiniens de l'arrivée au pouvoir de Joe Biden aux États-Unis ?
Ils peuvent espérer un retour d'une certaine forme de respect du droit international, une certaine forme de multilatéralisme. Joe Biden a dit que justement il voulait réengager le dialogue avec les Palestiniens et donc réouvrir des canaux diplomatiques traditionnels. On peut aussi penser que l'influence du Squad, donc c'est-à-dire représentantes démocrates à la Chambre avec AOC qui sont assez pro-palestiniens, va peut-être influencer Joe Biden et son électorat. Donc les Palestiniens attendent beaucoup de cette présidence. Cependant, on voit mal comment ils pourraient sortir de leur isolement qui est de plus en plus marqué sur le plan international. Et aujourd'hui, on a justement eu l'annonce d'une visite de Netanyahou en Arabie Saoudite avec potentiellement des rumeurs qui circulent sur une normalisation avec l'Arabie Saoudite, voire avec le Pakistan et le Maroc. Et ce scénario-là signifierait vraiment un isolement encore plus fort des Palestiniens.
Donc ça voudrait dire finalement qu'on irait de plus en plus vers une normalisation des pays arabes, comme ce qui s'est passé, et ça s'est passé sous le mandat de Donald Trump, pour les Émirats Arabes Unis et Bahreïn avec Israël. Exactement. Normalisation des pays arabes avec Israël, et ça va se faire au détriment du dossier palestinien, selon vous.
Mais c'est ça, parce qu'en fait, les Palestiniens étaient capables de faire pression sur la communauté internationale grâce à la solidarité qui s'exprimait dans les pays arabes et à ce bloc de soutien sur lequel ils pouvaient justement compter. Or, aujourd'hui, la normalisation, comme vous l'avez dit, avec les Émirats, Bahreïn, le Soudan aussi, et potentiellement donc d'autres pays, les fragilise vraiment sur le plan international.
Mais alors, le fait que le dialogue, et vous l'avez cité tout à l'heure, ait été relancé entre Israéliens et Palestiniens, avec justement le fait que il y ait des centaines de millions de dollars de taxes de droits de douane qui sont à nouveau versés aux Palestiniens, qui étaient complètement à l'arrêt depuis des mois, cette reprise du dialogue, elle intervient quelques semaines après l'élection de Joe Biden. Est-ce que là, c'est pas un signal en disant voilà, c'est à vous de jouer, et aussi côté israélien de dire on reprend ce dialogue avec les Palestiniens parce que vous entrez en scène?
Oui, mais ça, en fait, c'est pas vraiment une reprise du dialogue. C'est surtout que l'autorité palestinienne, il faut bien qu'ils payent quand même leurs fonctionnaires. Donc, ça veut pas vraiment dire qu'il y a une reprise du dialogue. Et il y a toujours des roquettes qui sont lancées par le Hamas. Enfin, c'est pas un signe vraiment de reprise du dialogue. C'est juste le signe que l'autorité palestinienne, en fait, a une marge de manœuvre qui est extrêmement réduite.
Parce qu'il y a une population en souffrance qui est complètement à l'asphyxie
voilà,
des Palestiniens.
Exactement, exactement. Et d'ailleurs, il y a une requalification pour une partie de l'élite politique palestinienne d'une une lutte en termes d'indépendance nationale pour une lutte en termes de droits civiques, c'est-à-dire qu'il y a une partie, mais une partie seulement, de l'élite politique palestinienne qui dit, voilà, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est simplement avoir les mêmes droits que les Israéliens et donc qui admettent potentiellement l'idée d'une annexion, en fait.
Et dans ce sens-là, justement, est-ce que on peut s'attendre à un retour de la contribution financière américaine à l'UNRWA? Donc on disait que les États-Unis étaient le premier contributeur. L'UNRWA, c'est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens. Je te disais au début de cette émission, c'est la réunion du Conseil de gouvernance aujourd'hui. Cette contribution financière, elle est complètement à l'arrêt avec le mandat de Donald Trump. Est-ce que, justement, Joe Biden, il peut reprendre cette contribution financière? Ce sera un geste en faveur des Palestiniens?
Alors ça, je ne pense pas que ça va arriver. En fait, le problème de l'UNRWA, ils sont vraiment décriés par Israël, c'est qu'ils ont une définition des réfugiés qui est héréditaire, ce qui fait qu'à partir des 700 000 réfugiés palestiniens en 1948, aujourd'hui, il y en a 5 millions. Et si vous êtes, par exemple, un descendant de Palestiniens, donc né au Liban ou né en Jordanie, vous avez le statut de réfugié par l'UNRWA, mais vous n'avez pas de droit politique en Jordanie ou au Liban. Donc, vous ne pouvez pas voter. Enfin, voilà. Donc, ce qui crée, en fait, de facto, des sortes d'apatrides, ce qui n'est pas une situation qui est bonne. Et en plus, l'UNRWA a subi un scandale en 2019 qui a conduit à la démission de son directeur. Donc, à mon avis, l'UNRWA, elle est quand même... C'est une organisation qui est mal en point. Non, je pense que le vrai enjeu, c'est la question de la Cour pénale internationale qui a ouvert une enquête préliminaire sur justement la question de l'occupation et des colonies en Cisjordanie. Et là, ça pourrait faire bouger les lignes. Cependant, la Cour pénale internationale, elle est aussi sous le feu des critiques des États-Unis parce qu'elle a aussi ouvert une enquête sur la question de l'armée américaine en Afghanistan. Et donc là, on voit mal Biden engager son capital politique sur cette question.
Ça veut dire que finalement, peut-être que le règlement du conflit israélo-palestinien pourrait ne plus être qu'entre les mains des États-Unis, parce que c'est ce qui se passe depuis un demi-siècle, finalement. Si ça se déplace côté ces pays, Cour pénale internationale, c'était une question que je voulais vous poser, ça. Est-ce que les États-Unis sont les seuls à avoir la main sur le dossier israélo-palestinien?
Le problème, surtout, c'est est-ce que les États-Unis vont laisser la Cour pénale internationale faire ça aussi? Parce que c'est la même chose. Je veux dire, les États-Unis, ils ont une capacité, en finançant les organisations internationales, ils ont une capacité de faire pression sur ces organisations. Et par exemple, l'administration Trump a interdit à la procureure de la Cour pénale internationale de se rendre aux États-Unis. Donc, c'est quand même pas rien.
Mais le ton va s'apaiser avec Joe Biden?
C'est ce que Joe Biden dit, mais c'est pas l'intérêt des États-Unis. Donc
ça renvoie à des questions de politique intérieure aussi. Ça dépend si Joe Biden a complètement les mains libres au Sénat, des choses comme ça.
Oui, c'est ça, et ça dépend aussi de l'évolution du monde. Et je veux dire, on voit avec le coronavirus qu'il y a quand même un repli des États, une politique réelle politique, et on voit mal une redynamisation du droit international, malheureusement. Même si j'espère qu'elle va arriver.
Et de manière concrète, vous avez dit le déménagement à nouveau de l'ambassade américaine en Israël de Jérusalem à Tel Aviv, c'est pas à envisager côté mandat de Joe Biden, mais est-ce qu'il y a des choses que Donald Trump a entre guillemets défait que Joe Biden pourrait refaire? Il y a donc l'annexion notamment le plateau du Golan, annexion...
Sur le Golan non plus, je pense pas que ça va bouger, mais par contre sur la condamnation des colonies et de l'occupation de la Cisjordanie, là ça peut bouger, parce que c'est clairement une violation du droit international, c'est une situation terrible en termes de droits humains et de droits de l'homme sur le terrain. Et donc là, je pense que Joe Biden peut durcir le ton. Et il a publié un éditorial dans Foreign Affairs où il expliquait donc sa politique étrangère, et il dit dans ce texte vouloir lutter contre l'illibéralisme, et Netanyahou représente clairement ça. Donc c'est les dossiers où ça peut bouger, la question de l'occupation.
Et en ça, ce serait effectivement un tournant avec le mandat de Donald Trump, puisqu'on l'a dit, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, s'est rendu encore la semaine dernière, sans doute à son dernier déplacement en Israël, sur une colonie israélienne de Cisjordanie occupée. Merci Amélie Ferré.
Merci à vous.
Chercheuse à l'ICERM, qui est l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, chercheuse également au CERI Sciences Po. Merci à Hélène Avril à la réalisation, Eleonore Krenik à la préparation de cette émission. Restez à l'écoute de la Radio Mondiale. Le débat du jour, c'est dans 30 secondes avec Guillaume Nodin.